Cette semaine, la vie en BD se met en mode club de lecture et on parle de récits de solitude. Bon mardi à tous et à toutes, bienvenue à cette édition de La Vie en BD, Raymond Poirier avec vous. Toujours un plaisir évidemment de vous retrouver, je le dis à chaque semaine, mais c'est parce que c'est vrai. Et il y a des choses vraies qu'on est obligé de répéter parce qu'il n'y a pas 3000 façons de les dire. Alors ben, je le disais dans l'entrée froide, nous sommes en mode club de lecture cette semaine, ce qui fait que j'ai plein de gens devant moi, des belles et tendres personnes. Émilie Roy-Brière, bonjour.
Allô Raymond.
Édouard Tremblay, bonjour.
Salut Raymond, salut tes auditeurs.
Marco Duchesne, bonjour.
Bonsoir.
Alors évidemment, on est ensemble parce qu'on est en mode club de lecture, vous l'aurez compris. Et cette semaine, eh ben, on va explorer quatre livres. C'est la redite aussi, quatre façons assez différentes d'exploiter une même thématique. Évidemment, je rappelle les règles pour ceux qui apparaissent parmi notre auditoire, qu'on salue d'ailleurs, bienvenue à La Vie en BD officiellement. Alors, essentiellement, qu'est-ce qu'on fait cette semaine? Eh bien, c'est qu'on a lu chacun quatre bandes dessinées. Donc, il y a une personne, en l'occurrence, ma gentille personne, qui a choisi un thème pour ce mois-ci. C'est à mon tour. Et, ben, dans le fond, chacun a contribué d'un album autour du thème. On les lit, on partage nos impressions, nos regards, nos confessions, nos désespoirs et nos rêves. Alors, c'est le menu pour la prochaine heure. La thématique, eh ben, c'était récit de solitude. Je mentionne rapidement les quatre albums et ensuite, ben, je vais passer la parole à Raymond pour qu'il vous explique les raisons derrière le choix de la thématique. Alors, essentiellement, donc, les quatre albums, c'est Nagasaki d'Agnès Ostache au Lézard Noir. C'est Le Rapport de Brodeck, deux tomes de Manu Larsenet chez Dargo. C'est Ed Gein, Autopsie d'un tueur en série d'Harold Chester et Eric Powell chez Delcourt. Et November de Matt Fraction et Elsa Chartier chez Sarbacane. Et si jamais vous suivez depuis longtemps l'émission, eh bien, vous savez peut-être déjà qui a choisi quel titre. Alors, essentiellement, récit de solitude. Pourquoi je vous ai proposé ça? Je trouvais intéressant. Enfin, on avait fait un peu l'expérience en décembre, je pense, autour du temps qui passe. Je sais pas si c'est décembre de cette année ou de l'année dernière. Tout se mêle et s'entremêle dans mon humble esprit. Mais essentiellement, j'avais trouvé intéressant l'idée d'illustrer justement un côté un peu méditatif, un côté un peu temporel. Et je me disais que narrativement, ça pourrait être intéressant de voir de quelle manière on aborde justement la solitude. Donc, des personnages qui sont, pour une raison ou une autre, confrontés à un vide, confrontés à eux-mêmes, confrontés au lieu qui les entoure, et comment les auteurs-autrices, dans le fond, en arrivent à mettre de l'avant, dans le fond, ces particularités-là, c'est ce vide-là, dans le fond, d'un point de vue narratif et de reste. Donc, je trouvais intéressant de voir un peu comment on allait aborder tout ça. Évidemment, quatre livres différents, en espérant toujours ne pas m'être trompé dans les livres que j'ai lus, parce qu'on mêle deux clubs de lecture dans nos lectures actuelles. De mon côté, je vous ai proposé Nagasaki d'Agnès Ostache, Lézard Noir. C'était la première fois, d'ailleurs, que Lézard Noir proposait un BD de style manga, mais qui n'était pas faite par un mangaka du Japon, donc Agnès Ostache qui est du côté franco-belge et qui quand même, dans le fond, nous amenait dans un style qui était très très près de l'esthétique du manga, qui nous amenait dans une thématique qui était très 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 japonaise également, à la fois d'un point de vue culturel, à la fois d'un point de vue routinier, donc la culture du travail entre autres, la routine de certains fonctionnaires, l'isolement de certaines personnes aussi dans une société qui est quand même très très populeuse, donc souvent on n'est jamais autant seul que dans une foule. Et c'est inspiré d'un fait divers réel également, où un homme vivait, faisait sa petite routine quotidienne dans son domicile, et quand il quittait, ben il y avait quelqu'un d'autre qui vivait dans son appartement, et donc deux solitudes qui vivaient sous un même toit sans jamais se croiser des mois et des années durant, jusqu'à ce que, à force d'avoir l'impression qu'il y avait toujours et perpétuellement de la nourriture qui venait à manquer, eh ben il a installé des caméras et a vu l'autre personne qui vivait le jour et qui se cachait le soir venu dans une trappe à quelque part dans son garde-robe. Et évidemment, c'est une solitude qui est partagée pas par choix. Alors, ça amène quand même une ambiance assez particulière, un regard assez particulier, au bout du compte, sur notre intimité et sur ce qui peut s'y cacher. À l'époque de sa sortie, j'avais adoré cette BD et j'avais envie de vous la faire lire ou relire. On saute peut-être à vos sélections, chers collègues. Émilie Roy-Brière, tiens.
Oui, mais quand tu nous as proposé le thème de la solitude, j'ai un peu triché, j'ai proposé une BD que j'avais pas lue. Le rapport de Brodeck, je l'avais d'abord connu probablement l'année où c'était sorti, c'était chez Grasset, c'était écrit par Philippe Claudel, puis moi j'avais lu le roman avant de lire son adaptation en bande dessinée. Puis je pense qu'on a différentes sortes de solitude dans le rapport de Brodeck. Le plus manifeste serait probablement l'arrivée de l'étranger au village. On est dans une espèce de petit village d'une localisation un peu indéterminée. On imagine que c'est peut-être l'Europe de l'Est ou la campagne française, on n'est pas sûr. Puis, du jour au lendemain, il y a un étranger qui arrive. Je crois qu'on lui demande jamais son nom. On l'appelle Landerer. C'est un mot qui veut dire étranger. On sait que c'est un homme qui a probablement beaucoup plus d'argent que n'importe qui au village, parce qu'il possède un cheval, il possède un âne, il porte des drôles de vêtements. C'est le genre de personne qui travaille pas non plus, qui observe beaucoup la nature, qui pose des questions. Donc, ce serait la solitude principale du rapport de Brodeck, mais il y a pas seulement ça. Il y a aussi le personnage de Brodeck qu'on va prendre à part, puis à qui on va demander d'écrire un texte. Puis ça devient une espèce de jeu un peu paranoïaque. Le village se ligue contre lui, mais tout passe dans des on-dit, dans des regards, dans des attitudes un peu particulières. Donc, c'était le récit que j'ai découvert en même temps que vous, finalement.
Alors, le rapport de Brodeck du côté d'Émilie, Édouard Tremblay.
Sans grande surprise, hein, je pense pas que je vais jeter personne à terre en disant que c'est moi qui ai choisi Ed Gein, l'histoire d'un tueur en série. Vous comprenez que j'ai toujours eu une fascination pour tout ce qui touche justement le monde criminel, le monde interlope, et Ed Gein forcé de constater que dans ces lieux-là, c'est une figure presque, j'oserais pas dire mythique, parce que je trouve que c'est donner un petit peu de crédit à ce genre d'individu-là, mais il faut dire que c'est quelqu'un qui va marquer l'imaginaire collectif, qui va justement, de par ses exactions, être repris, être réinterprété dans un paquet de films, notamment dans Texas Chainsaw Massacre, notamment dans Psycho, notamment dans... donc quelqu'un qui c'est ça qui va vraiment marquer l'imagination, un type de Plainfield, en fait, qui justement dans les années des années 50, par toute une circonvolution qu'on aura l'occasion d'aborder peut-être un peu, et par cette fameuse insolitude qui est notre thème central, va finir par juste complètement perdre les pédales et va commettre en fait plusieurs atrocités, notamment du pillage de tombes, mais également du meurtre. On présuppose aussi toutes sortes de cannibalisme et autres paraphernalia autour de tout ça. Donc, sympathique personnage, mais qui, vous allez voir, se prête quand même relativement bien de par son passé et tout, à cette idée justement de solitude, en fait.
Et bon appétit pour ceux qui se mettent à table.
Effectivement, ça nous amène dans des beaux recoins aussi. Et évidemment, si on y va par la déduction, Marco Duchesne, on comprend que c'est toi qui as choisi November.
Oui. Alors, moi, j'ai choisi November, mais en fait, c'est le hasard qui a fait la chose. T'as annoncé ton thème. J'étais en train de réfléchir dans les jours qui ont suivi, mais j'étais aussi en train de rattraper mes lectures un peu pour
nos fameuses
films
qu'on a un peu partout,
ouais,
chez nous. Là.
C'est des nouveaux. En fait, November est sorti en deux tomes et sont sorti rapidement un à la suite de l'autre cette année. Alors et là, je me suis mis à les lire et j'ai fait « Oh, wow! » Là, je me suis dit que ça cadrait parfaitement avec ton thème, avec même si c'est un récit qui se passe en ville, même si c'est un récit qui se passe avec beaucoup d'action, il y a effectivement non pas une solitude, mais trois, et qui concorde avec un récit, parce que Matt Faction, le scénariste, adore manipuler un peu la narration, le temps et tout. Il suit un peu des super-héros, mais quand il fait des projets en solo comme ça, il aime beaucoup ce genre de manipulation-là. Alors, et c'est l'histoire tout simplement de trois solitudes, c'est-à-dire trois femmes, à un moment où la ville va exploser de violence, elle est sur le bord d'éclater, d'imploser. On y voit une junkie qui se fait embaucher pour une drôle de job. On y voit une policière qui était pas rétrogradée, mais à qui on a confié le poste de répondre aux appels du 911. Et il y a cette femme qui, au mauvais moment, arrive au mauvais moment et va faire partie intégrante d'une situation. Alors, ces trois femmes-là vont être... on va avoir un peu leur background et leur historique, et on va comprendre que c'est effectivement trois femmes seules avec qui vont se débattre dans la vie, et la vie qui vont vivre le moment où tout ça va arriver. Et les trois destins vont se croiser à un court moment pour ensuite... faire voguer vers leur destin.
Alors, quatre récits qui abordent la solitude, mais je pense qu'on l'a déjà compris de manière quand même relativement différente. Maintenant, quel ordre mettons dans ce chaos, entre guillemets, auto-généré? Ben, c'est le moment de l'émission où tous et toutes, on tourne nos regards, nos oreilles et notre bonté vers Édouard Tremblay.
Faites attention, pas trop de beauté pour moi, hein, ça pourrait être néfaste. Mais oui, donc la solitude, hein, quand même tellement intéressant parce que bon, vraiment, je dirais l'âme à double tranchant à mon avis, autant que la solitude, hein, comme je dirais de par notre nature humaine grégaire, bon, on est des gens de société, on accepte d'être ensemble en vertu, hein, de ce que j'appellerais le pacte social, hein, qui nous permet justement et par un paquet de nécessités sans lesquelles nous ne pourrions, hein, survivre. Et donc la solitude par rapport à ça devient une punition. Mais en même temps, pour certains, la solitude est aussi une récompense, c'est aussi quelque chose qu'on cherche. Et Dieu sait que je déteste Jean-Paul Sartre, mais quand il a dit « l'enfer, c'est les autres », il avait quand même sacrément raison. mais donc, comme je disais, l'âme à double tranchant, quelque chose auquel on peut aspirer, quelque chose qu'on peut redouter, hein, quelque chose qui peut nous rendre plus forts ou nous briser complètement. Et vraiment, je dirais que la façon dont tout un chacun va composer avec cette solitude-là va vraiment être déterminante, en fait, dans notre... autant par rapport à notre personnalité, par rapport à justement comment on va aborder la vie, comment on va composer la vie. Et donc, je me disais, hein, comme point d'ancrage, en fait, un peu entre ces quatre titres-là, ben justement, c'est pourquoi on se retrouve seul, hein? Quelle est la raison derrière cette solitude-là? Et je me disais, commençons par une solitude peut-être un peu plus... c'est pas plus soft, mais disons, une solitude choisie, ou volontaire dans une certaine mesure, celle de Nagasaki, hein, qui est en effet, oui, récit fort intéressant, et d'autant plus intéressant que il fait écho quand même à une réalité sociale qui est, oui, pas hyper répandue, mais qui est quand même présente au Japon, de par justement le nombre des gens, la difficulté qu'on a à se loger et tout ça. Donc ce phénomène-là de parasite, si on veut, ou bon, de double occupation d'un appartement, ou alors qu'on pense être justement, nous, dans notre intimité, hein, un peu chose près, donc livré à nous-mêmes, à ce qu'on et tout, et qu'on va se rendre compte que finalement, ben, ce sentiment, hein, d'isolement, de protection, hein, parce qu'ici, hein, la solitude devient justement presque un cocon, devient presque pour notre personnage principal, devient un standard, une habitude dans laquelle il est bien, et on va rendre compte de tout ça complètement brisé, complètement violé à quelque part par l'intrusion de quelqu'un d'autre qui veut pas nécessairement mal, qui veut pas nécessairement comme venir rompre notre rythme de vie et tout, qui vit un peu en parallèle de nous. Mais c'est clair que pour notre héros ici, ben, je veux dire, ça bouleverse tout, ça change complètement la donne, là.
Ben, c'était d'ailleurs un des éléments qui était les plus intéressants, je trouve, dans cette bande dessinée-là, c'est que on se rend compte du subterfuge, du stratagème quand même assez tôt dans la bande dessinée. Je pense que dans le premier chapitre, le personnage va aller mesurer le niveau de liquide dans une boîte de jus parce qu'il est convaincu que quelqu'un boit son jus pendant qu'il n'est pas là. Puis, il va poser les caméras, il va constater qu'il y a effectivement une femme qui habite chez lui. Puis, à partir du moment où lui va la dénoncer, elle va se faire arrêter, le point de vue va changer. Son histoire à lui va un petit peu prendre le bord, puis on va raconter l'histoire de la femme, bon, qui évidemment va être emprisonnée pour son crime, elle va être jugée, elle va rencontrer ce monsieur-là, je pense, pour la première fois de sa vie au procès. Leurs regards vont se croiser, puis je pense qu'elle espère qu'il se passe quelque chose entre eux, parce qu'ils ont partagé quelque chose d'un peu intime, mais jamais au même moment, finalement. Puis, je sais pas, je trouvais ça un peu choquant, un peu surprenant, la manière dont elle parlait de son occupation de cette maison-là, parce que pour elle aussi, c'est un abri. T'sais, c'est son chez-soi à elle. Puis, c'est ce que lui lui reproche pendant le procès. Il dit, ben là, moi, je me sens plus chez moi, là. J'ai toujours l'impression que quelqu'un me regarde. Je me sens pas à l'abri.
Puis c'était surtout par nécessité, si je me souviens bien, elle... qu'il n'y avait plus d'endroit et tout. Là. C'était vraiment pour survivre, en fait, qu'elle avait fait ça. Moi personnellement, c'est pas le genre que j'affectionne, et surtout de cette façon-là. Mais, et j'en ai rêvé, d'ailleurs. Je racontais que, tu sais, les cases, il n'y a pas vraiment de cases, mais c'est des cases sans cadre, avec des couleurs, surtout. Et j'ai rêvé à ces couleurs-là. À ce personnage à peine esquissé au crayon et avec des tons de pastel, de rouge, de jaune. J'en ai rêvé. Mais moi, c'est le récit, c'est cette solitude-là, ce récit en solitude, tout en solitude, qui me faisait l'effet de cultiver un bonsaï. D'arriver, puis on a une plante à laquelle tous les jours, on va couper pour qu'elle reste de la même taille, pour qu'elle ne prenne pas d'expansion, qu'elle reste... Et ce récit-là, au moment où il pourrait y avoir de l'expansion dans l'action... Non, on la restreint. De l'expansion dans l'émotion, tu parlais du procès, on s'attend à quelque chose, mais non, ça reste toujours confiné à l'intérieur, à cette solitude-là, là, à intérieur. Ça reste toujours confiné, comme si le banzai intérieur... Il était entaillé tous les jours pour que le récit reste tel qu'il est, ne dépasse pas la solitude des... C'est-à-dire que on le voit, le monsieur au travail, mais on le voit pas avec les autres, on ne voit pas interagir. Les autres, à un moment donné, s'intéressent un peu à son histoire, mais sans plus. Alors, c'est toujours lui face à sa bouteille de jus qui diminue et elle qui... On sait pas, je me rappelle plus, mais c'était par nécessité qu'elle a intégré cette maison-là et qu'elle s'est cachée puis qu'elle a fait en sorte de survivre. Là. Bref, ça me faisait cet effet-là, moi, de toujours restreindre le récit, la façon de raconter à la solitude, à vraiment ne pas faire en sorte que ça prenne de l'expansion, à toujours rester, à garder les personnages clos sur eux-mêmes.
Oui, puis même en fait l'expansion, entre autres avec le dossier, ben quand il est confronté par ses collègues, ça devient une nuisance au bout du compte, et la nuisance est là aussi parce que ça le force à aller vers les autres, parce que ça l'amène à des interactions qu'il n'a pas envie d'avoir, et parce que lui a fait le choix pour une raison pour une autre, ou a été obligé à, et désormais c'est son lot, mais de se contenter de cette existence-là, de ce cadre-là, de cet appartement-là, de ces limites-là. Alors je trouve que ce que tu amènes est intéressant, où dans la mesure où on contraint le récit un peu de la même façon que les personnages se contraignent à ces quatre murs-là, se contraignent à cette routine-là, et au bout du compte, se contraignent à dans un certain vide d'interaction, un certain vide tout court, en fait, du moins qu'on perçoit comme un vide, nous, de l'extérieur, en regardant ça et en vivant l'absence, d'une certaine façon.
Tout à fait. Et la scène de la fin, si je me rappelle bien, elle sort de prison et va visiter l'appartement, mais lui a quitté, là, l'appartement est complètement vide. Et si je me rappelle bien, les commentaires qu'elle fait, parce que les commentaires sont d'elle et tout ça, ne concorde pas avec une place vide, avec, ne concorde pas avec quelqu'un qui se retrouve avec rien. Elle fait juste se souvenir et c'est pas triste, c'est pas pathétique, c'est pas... c'est tout simplement, elle se sent bien parce qu'elle elle explique... c'est comme si la période qu'elle avait vécue en cachette, mais à l'intérieur, tout seul, c'est comme si c'était la meilleure partie de sa vie ou un truc comme ça. En tout cas, c'est l'effet que ça faisait, là.
C'est comme retourner à la maison.
C'est ça. Mais l'appartement est vide.
Oui, puis l'existence elle-même n'était pas par terre. En fait, je veux dire, ça nous amène ce type d'étude de personnage-là, parce qu'au bout du compte, c'en est un peu aussi, puis ça va être beaucoup ça, je pense, aujourd'hui. Ben, nous amène à des fois avoir un certain inconfort, j'ai l'impression, par rapport à certaines manières de penser de ces individus-là, comme si on n'arrivait pas nécessairement à se reconnaître, comme si l'effet miroir n'était pas toujours exactement le même, parce qu'il y a une manière de voir les choses, une manière de les aborder, une manière de les appréhender, qui nous met en déséquilibre d'une certaine façon.
Ben, un peu comme on dit, quand on dit « dance like nobody's watching », on a une manière d'être quand on est seul, puis on a une manière d'être quand on est devant les autres aussi.
Ouais, c'est sûr que là, il y a le bruit, comme je disais, de l'intimité. Je peux comprendre. Tu sais, même quelqu'un qui serait pas nécessairement aussi, disons, isolationniste que notre héros, tu sais, c'est sûr que lui va se sentir, n'importe qui se sentirait brusqué, justement, violé dans son intimité, dans sa vie de tous les jours. Mais en même temps, je trouve ça quand même aussi particulier. Bon, ça comme ça rend bien une réalité japonaise aussi, parce qu'il faut pas oublier que, tu sais, au Japon, tout le monde vit empilé les uns sur les autres, donc c'est sûr que d'avoir comme ton intimité, ton chez toi,
c'est
un luxe qui coûte très très cher et oui, qui est vraiment pas donné à tous. Mais en même temps, je me dis quel luxe moderne qui va à l'encontre, je veux dire, de l'hospitalité même humaine. Je veux dire, la loi de l'hospitalité, c'est quelque chose qui est aussi vieux que l'homme, tu sais, recevoir l'autre.
Il y a la notion de la propriété aussi. Oui, c'est une forme d'invasion.
Mais il y a une question de culture.
Oui.
On se dit-tu que si un auteur américain avait écrit l'histoire, le couple, ça finissait en couple ensemble?
Ah, c'est sûr que ça écrit
c'est, non, mais c'est vrai.
Non, ça, c'est vrai. Il était heureux, puis il y aurait beaucoup d'enfants, puis il y aurait, c'est clair et net. Mais je veux dire, c'est quand tu prends ça par rapport à un contexte. À une certaine époque, vivre seul, c'était une condamnation à mort, ou c'était, je veux dire, tu choisissais d'être ermite, là, tu sais, de vivre dans une pauvreté crasse, isolée de tout et tout. Je veux dire, vivre ensemble, c'était la survie. Puis là, t'en as une qui, dans le fond, se rattache à ça, parce que elle a pas de choix. Bon, elle vit empilée sur quelqu'un d'autre, mais je me demande encore si, au-delà de justement de ces barrières sociales-là, ce truc-là, tu sais, pas juste justement deux personnes qui auraient pu se parler, puis vivre en colocation, je veux dire.
C'est qu'on revient à la notion de consentement. Dans le fond, s'il n'y a pas de consentement, il n'y a pas vivre ensemble.
Non, ça c'est sûr.
Il y a quelqu'un qui s'impose, il n'y a pas eu de barrière qui a été, il n'y a pas eu de demande
formelle
qui a été
faite,
il
n'y
a pas eu de pacte social.
Voilà.
Donc, ça reste à mon sens sur la notion de l'invasion. L'invasion douce, il n'y a pas eu de vol, il n'y a pas eu de violence, ni rien, mais de l'invasion de l'intimité, au bout du compte.
Tout à fait.
Et le sentiment d'être observé, parce que, dans le fond, on est un peu dans le principe BD où il y a une personne qui sait ce qui se passe pour vrai, et l'autre personnage, en fond, l'occupant principal de l'appartement, n'a aucune idée de cette double vie que son appartement a. Donc, on ne peut que... On peut comprendre son refus, d'une certaine façon, d'aller de l'avant vers cette personne-là qui s'est imposée, qui le fait de façon socialement, qui n'est pas acceptable non plus, au bout du compte.
Oui, tout à fait. Mais en même temps, je trouve qu'il y a cette espèce de... au-delà, justement, du consentement et tout, comme je disais, c'est le luxe, tout à fait, puis je pense que le terme est bien choisi, le luxe de la solitude, de parce qu'en même temps, on est avec un héros qui, je veux dire, pour moi, je le voyais tout de suite, là, je veux dire, le gars, il est obsessif compulsif, là, je veux dire, ce gars-là, tu sais, je veux dire, quand t'es rendu à mesurer ton jus pour être capable d'avoir une preuve, je veux dire, je sais-tu à combien il est rendu mon jus, je sais même pas si j'ai du jus dans mon frigo, là, tu sais, je vais découvrir ça tantôt en arrivant à la maison, tu sais, je veux dire, il y a cette espèce de... C'est ça, moi, qui me fascinait, c'est cette solitude choisie-là, parce que c'est comme... Je suis pas capable de faire face à la vie en dehors de ce cadre rigide que je me crée. C'est comme si tu déplaces une épingle sur ma table, tout d'un coup, c'est le désarroi, puis il y a plus rien qui marche.
En parfait contrôle de ce qui l'entoure.
Je trouve que ça présente aussi une personnalité qui est assez particulière, au-delà, comme je disais, oui, bien sûr, de l'invasion, de tout ce sentiment, comme je disais, d'intimité que tous vont ressentir. Mais là, on est vraiment dans un héros qui est... Je veux dire, il choisit son isolement, mais c'est presque... Je veux dire, c'est pour pas avoir à composer avec les autres, là. C'est parce qu'il veut pas avoir à composer avec la société. C'est parce qu'il veut pas avoir à... Tu sais, alors que, ben souvent, cette solitude-là nous est imposée par la force des circonstances. Et c'est, tu sais, par la force, par la volonté des autres, en fait, c'est eux qui nous mettent en isolement. Et c'est le cas, par exemple, avec quelque chose de brillant comme le rapport de Brodeck. Où, justement, je veux dire... Et en même temps, Brodeck, quand on se met dans le pot du personnage, on se dit peut-être... Il peut être heureux à quelque part d'avoir sa propre solitude à lui à cause des secrets, à cause de ce qui se partage, à cause de cette écriture qu'il maîtrise et que personne d'autre maîtrise, et bon, tout ce que ça lui donne justement de champ pour préparer son espèce de d'autres rapports dans le fond sur le meurtre sordide. Mais je veux dire, Brodeck en est un magnifique exemple. Je veux dire, c'est tout le reste du village. C'est comme, regarde, tu n'as pas pris justement part à notre pacte social, à notre crime. Donc, on t'isole, on te parque avec ça, et on te donne l'infâme de devoir raconter tout ça, de devoir relater notre crime, notre folie, notre... Mais je veux dire, c'est une solitude qui lui est utile, mais qui en même temps est brutalement imposé. Hein.
Ben, un peu en fait comme à la fin du premier tome, dans la discussion qu'il y a avec le prêtre, où je trouve que c'est une mise en abîme, dans le fond, de la situation dans laquelle les villageois ont placé Brodeck, dans le fond, puis on comprend que c'est vers ça peut-être aussi qu'on s'en va par la suite. Dans la mesure où finalement, c'est que les autres semblent avoir besoin d'un déversoir, un peu comme on va chez le psy, un peu comme on va à la confesse, au bout du compte, qu'on a besoin de quelqu'un qui vit à part et à qui on peut confier nos secrets, sachant qu'il ne sera pas en position ou apte à les utiliser contre nous. Pour des raisons de code, pour des raisons d'ordre professionnel, pour des raisons sociales, et dans le fond qu'on va profiter de ces gens-là pour s'émanciper, pour faire le vide de nos problèmes, pour partir à neuf. Mais quelles sont les conséquences, au bout du compte, qu'on laisse sur ces gens-là à raconter des moments brisés, à raconter des moments intenses, à raconter nos secrets intimes, mais qui, eux, dans le fond, vont devoir, puis c'est la force de toute cette conversation-là, au bout du compte, vont devoir composer avec ça. Et il y a des moments dans Brodeck où, justement, on nous fait comprendre un peu dans ces discussions-là comment tout ça vient un peu à se placer, comment aussi Brodeck lui-même était un peu prédisposé à être mis à l'écart ou à se mettre à l'écart, comme il le fait dans les camps à la Deuxième Guerre mondiale, où il a été ostracisé parmi les prisonniers aussi, mais volontairement pour survivre également. Donc, on revient, enfin, on parlait de la solitude par choix, mais d'une façon, il y a un choix là-dedans. Et ça y est imposé autant qu'il a choisi ou il l'a choisi à d'autres moments pour une question de survie, un peu comme le prêtre le fait lui aussi, parce que à un certain point, sa survie à lui va dépendre de ce qu'il sait, va dépendre de ce rôle-là qu'il a choisi d'assumer et qu'il en devient obligé à assumer, quitte à ce que ça le mette à l'écart de cette société-là.
Mais il y a aussi une espèce d'appel à l'oubli à la fin, comme quoi les personnages les plus condamnés du village, c'est ceux qui gardent la mémoire du village, qui pourraient garder la mémoire de cette espèce de crime affreux ou des secrets épouvantables qu'on pourrait leur confier. Tu sais, on sert de ces personnes-là. On parlait du prêtre, on parlait de Brodeck, dans une espèce de recherche d'absolution. Puis, ben, une fois que ça a été accordé, ça va, on peut poursuivre notre vie puis oublier tout ça à tout jamais.
Un peu, ça me faisait penser un peu même à celui que tu nous avais fait lire, le truc horrible, là,
il y a quelques mois.
Ouais.
Lequel?
Mangez-le si vous voulez. Oui, hein, ouais, oui. Ben encore oui, une fois, oui, on choisit un exutoire, hein, à sa colère, à sa faute, dans le fond. Hein. Puis c'est vraiment ça, encore une fois. Et le il faut dire aussi que le trait de Manu Larsonnet là-dedans est extraordinairement maîtrisé.
Ah, le trait. Oui, parce que effectivement ici, ce qui rentre en ligne de compte, c'est la façon dont on raconte les choses. Toujours, pour moi en tout cas, ce qui me touche le plus. Et du côté de Larsonnet, c'est un de mes auteurs préférés pour comment il le raconte et qu'est-ce qu'il raconte. Le rapport de Brodeck, c'est, je pense, et je suis pas mal sûr, que c'est la première fois qu'il adapte une œuvre qui n'est pas de lui, c'est-à-dire une histoire qu'il ne raconte pas de lui. Et ses histoires sont souvent très intimes, sont souvent très proches de la biographie. Le combat ordinaire était ce combat pour la dépression et la mort de son père, mais je sais pas si Larsonnet, son père est mort, mais dans le combat ordinaire, visiblement, il y avait quelque chose de plus intime avec Blast, l'alcoolique, l'alcoolisme et l'addiction. Dans un récit un peu mystérieux où apparaît un peu le côté polar, mais toujours avec ce noir et blanc, avec des couleurs où ce fameux Blast arrive avec les couleurs et tout. Dans le rapport de Brodeck, ce noir et blanc-là est beaucoup plus foncé et beaucoup plus sombre, et ça colle un peu avec le récit, mais ça colle aussi un peu avec cette personnalité-là. Je crois que Manu Larsonnet est pas quelqu'un qui doit sortir beaucoup de chez lui. Il est peut-être venu à Québec une fois, j'ai eu la chance peut-être de le voir une fois, mais et peut-être pas, de mémoire en tout cas, mais c'est quelqu'un qui est profondément seul, et il l'exprime assez bien avec son art. Je me rappelle à l'époque, il y avait un blog que je suivais, et c'était à l'époque où il venait de finir Blast et commençait le rapport de Brodeck, et envoyait ses dessins de temps en temps qu'il travaillait avec ses dessins noirs et blancs. Je me rappelle, il y avait une case avec la charrette, bref. Et tout ça fait en sorte que c'est toute cette solitude-là et tout ce... pas mal être, mais on sent qu'il y a un combat qui se livre. Et dans le rapport de Brodeck, c'est comme si il avait trouvé l'œuvre pour ne pas réfléchir et à appliquer cet art-là de raconter. Et il y a aussi ce format-là qui n'est pas un format ordinaire, qui se lie un peu à l'italienne. En fait, le format n'est pas vraiment conventionnel, et comme un roman un peu plus allongé qui étire un peu ce récit-là, qui le rend un peu plus lent.
Lent et anxiogène, ouais. Parce que vraiment, justement, tu parlais du noir très appuyé, en plus, bon, petit village d'Europe de l'Est, comme tu disais, je pense qu'il a vraiment choisi quelque chose qui servait bien un récit de solitude, mais au-delà justement de la solitude de Brodeck, comme je disais, seul parmi tous les autres, je veux dire, c'est la solitude du village aussi, coupée du reste, coupée de la civilisation, qui voit arriver le premier étranger depuis X nombre de temps, qui trouve rien de mieux à faire que de le tuer. Mais tu sais,
beaucoup d'extérieur, hein, les paysages.
Beaucoup d'extérieur, beaucoup de... Je veux dire, sa représentation des nazis est absolument... extraordinaire, je veux dire, cette menace sans visage qui fait juste, comment on disait, qui fait juste gueuler, hein, qui fait juste comme, il y a juste des dents, il y a juste des...
Ça ressemblait un peu à Pyramus, tu sais, quand arrivent les soldats.
Ouais.
Quand Brecchia dessine les soldats qui débarquent, là, ça ressemblait un peu à ça.
Ben, ça encore, c'est cette force sans visage d'oppression qui a pas de personnalité,
qui marche autant parce qu'on est dans un noir et blanc absolu aussi, qui fait pas de compromis, un peu comme l'univers fait pas de compromis non plus.
Puis les éclairages sont très dramatiques aussi, là. Les scènes de nuit sont particulièrement magnifiques. Puis non, mais avant que vous débarquiez avec les nazis puis Pyramus, moi, c'est dans les scènes extérieures, ce qui m'avait marqué beaucoup, c'était toutes les représentations de bêtes, d'oiseaux qui sont comme juste là le temps d'une case, puis qu'on voit plus jamais. Puis tu sais, même dans la bande dessinée, les sciences naturelles vont prendre énormément d'importance, tu sais, que ce soit avec l'espèce d'occupant qui arrive au village qui dit bon ben voilà, je vais t'expliquer comment fonctionnent les lépidoptères. Les papillons, quand ils sont menacés, vont sacrifier certains de ses membres pour survivre. Probablement que vous avez des éléments indésirables au village. Peut-être que vous voudriez nous les confier pour qu'on vous foute la paix ou quelque chose comme ça. Puis l'âme d'erreur qui arrive avec ses ouvrages de botanique, qui va proposer à Brodeck, qui dit ah, je pense que vous aimeriez ça. Il y a tout plein d'interprétations qu'on peut faire juste avec ce thème-là dans ces deux albums-là.
Et tout ça, en fait, je reviens avec l'ambiance tantôt, mais l'ambiance, elle est forte parce qu'elle est dans le visuel, mais dans la narration, dans le ton aussi, dans le ressenti. Je veux dire, c'est une BD qui nous met dans une ambiance particulière et dont on sait que si on décide d'enchaîner coup sur coup en l'espace de quelques heures les deux tomes, ben on va être renversé à l'arrivée, qui montre bien, je pense aussi, la maîtrise de l'arsenal, de l'ensemble des outils, des moyens qui sont à sa disposition, où il a choisi le bon livre, où il a su garder les bonnes choses de ce bon livre, où il a su nous amener dans un cadre visuel qui complète parfaitement, dans le fond, l'esprit de ce qui nous amène et qui crée un objet qui, à l'époque de sa sortie, avait été salué de toutes parts.
Ah ouais.
Et quand on le relit avec le recul, on comprend pourquoi et on le salue à nouveau. Là.
C'est quand on sort le... Moi, en fait, les premières fois, on sort, il y a un petit coffret qui arrive avec la BD. Et quand on tourne les pages, la puissance du dessin et tout, j'avais l'impression qu'il allait avoir un pop-up à un moment donné. Mmh. Tu sais, que l'image, que tout ça allait comme s'ouvrir puis devenir une espèce de troisième dimension. Là. Tellement le contraste du noir et du blanc, tellement le dessin était fort, j'avais l'impression que ça sortait des pages.
Il y a une efficacité, comme je disais, moi, bon, l'arsenal, je commence tranquillement à en lire un peu à gauche à droite, j'ai pas eu la chance ou l'opportunité, bon, d'en lire autant, mais je disais, la puissance narrative de ça, l'ambiance, comme je disais, qui crée, qui est tellement lourde, qui est tellement pesante, qu'on pourrait presque en perdre la tête. Alors, certains, hein? Voilà, hein, extraordinaire.
Transition.
Elle
doit faire une transition.
Le retour de la transition. Donc, voilà, hein, cette solitude, donc, oui, hein, qui peut nous faire perdre la tête, en fait. Et, ben, vous aurez compris que c'était le cas, hein, de mon homonyme, hein, Edward Gein. sans les autres liens de parenté. Mais donc oui, hein, Gein, en fait, pour ceux qui justement connaissent un petit peu moins bon le type, était vraiment quelqu'un qui a été élevé bon en vase clos. Sa mère était une fanatique religieuse de la première heure. Pour elle, la vie en société, particulièrement évidemment fréquenter les femmes, c'était Babylone. Ce n'était que perdition et crime. Même un petit village sans histoire comme Plainfield, là, pour elle, c'était beaucoup. Et donc, elle a constamment élevé ses enfants, un qui va mourir et Ed, justement, de cette manière hyper religieuse là, un mari qui était effacé, qui complètement écrasé par cette figure là d'Augusta Gein, en fait la mère d'Ed. Et c'est vraiment à la mort justement d'Augusta que Ed Gein va se retrouver seul dans ses pensées, seul dans ses obsessions, seul dans la grande maison familiale. Et là, comme je disais, c'est la spirale. Là, on se met à tourner dans cet esprit-là. Et un jour, n'ayant plus vraiment, justement, de repères, bon, il va essayer de retrouver sa mère à travers les cadavres des autres. Il va essayer de peupler son imaginaire, parce qu'à un moment donné, tout ça va prendre une tournure, justement, complètement hallucinée, de manière évidemment épouvantablement macabre, mais il y a quelque chose en même temps d'enfantin dans Gein que souvent on retrouve pas nécessairement dans les autres tueurs en série non plus. C'est un cas type, mais en même temps assez unique en son genre. Quelqu'un qui avait l'air aussi pas particulièrement brillant non plus. C'était pas un génie, alors que beaucoup d'entre eux ont des QI souvent assez élevés. Mais donc c'est ça vraiment, c'est comment... Comment cette solitude, comment cette obsession de la mère va tranquillement creuser, disons, un gouffre qui était déjà ouvert en Gein et qui va vraiment lui faire perdre pied.
Et c'est un peu, en fait, le sous-titre, c'est Autopsie d'un tueur en série, et c'est vraiment, en fait, ce que je percevais que les auteurs avaient choisi de faire dans ce livre-là. De comprendre le pourquoi, d'aller aux racines du mal, entre guillemets, oui. et de voir qu'est-ce qui faisait qu'on pouvait partir d'un type qui avait peut-être déjà des problèmes au départ, mais qui, de par le contexte, de par son éducation, de par son isolement, de par un ensemble de facteurs, ben on avait exacerbé ces problèmes-là, et il y avait eu une perte de contrôle éventuellement qui s'est faite dans le contexte où son identité était tellement centrée sur sa mère, et on le dit un peu en cours d'album, dans le fond, sa mère était devenue littéralement son dieu, c'était plus que sa mère, c'était le centre de son univers, et elle s'était imposée volontairement, un peu comme ce centre-là aussi.
Et Il est, la façon dont on a décidé de raconter, encore une fois, je vais parler de la façon de raconter. En fait, Eric Powell qui accentue cette autopsie-là par des gros plans. Souvent, la majorité des cases, en tout cas, ça revient souvent, c'est des gros plans de Ed Gein, mais des gros plans des personnages. Oui. Comme pour n'importe quel, c'est comme si n'importe quel documentaire sur un tueur en série ou peu importe la célébrité de celui qu'on fait la biographie ou un documentaire, c'est comme si là on avait choisi de rester proche du sujet et de voir cette solitude là qui se creuse au fur et à mesure que la dominance de la mère s'accentue. Et là lui nous raconte ça en bande dessinée, mais c'est comme en bande dessinée, c'est comme si ça lui donnait plus de manœuvre parce que le documentaire, il va y avoir des photos. Rappelez-vous comment on voit les documentaires parfois où il n'y avait pas de film ou de caméra, où il n'y avait aucun film. On nous montre des photos, mais on nous montre 15 fois la même photo au travers d'une narration qui. Mais là, lui peut se permettre de. Et il en reste au gros plan, comme si chacune des cases où il met un gros plan, on pouvait justement autopsier.
Puis, j'ajoute en fait sur la notion aussi d'autopsie, le plan fixe dans les séquences d'interrogatoire où sur des pages et des pages, on a toujours à peu près le même plan d'Ed Gein ou infiniment répété, où ça aurait pu être pratiquement du texte, mais on choisit d'aller avec une abondance de ce visage-là. C'est un schéma qui va revenir aussi sporadiquement. On dirait que ça nous renforce un peu un inconfort qu'on a par rapport à ce personnage-là, le fait de le voir un peu comme ça, le fait de le voir un peu immobile, le fait de... Ça accentue et on arrive à nous faire ressentir ce malaise-là, je trouve, à travers différents procédés, comme ça, comme ceux que tu mentionnes aussi, à l'intérieur de ce récit-là.
Ben, moi, l'impression que j'avais, justement, pour cette espèce de scène de l'interrogatoire où tout ce qu'on a, c'est un plan fixe d'Ed Gein qui est assis à une table, puis bon, de temps en temps, il regarde à côté quand il y a des questions auxquelles il veut pas répondre. L'impression que j'avais, c'est que la bande dessinée nous cantonnait au rôle de l'interrogateur.
Mmh, exact.
Puis on va être pris dans cette position-là, on peut pas y échapper parce que, tu sais, le cadrage nous le permet pas, à essayer comme de déceler les petites micro-émotions sur son visage, savoir un peu, savoir s'il est conscient de ses actes, s'il regrette, qu'est-ce qui s'est passé.
La conclusion l'amène aussi, d'ailleurs, ça vend de la mèche, mais dans le fond, on nous dit, regardez, on ne sait pas exactement ce qui s'est passé. Au final, il n'y avait pas d'ADN à l'époque. On ne sait pas si Ed Gein était un franc manipulateur ou un idiot sympathique. Je veux dire, il n'y a rien, au final, de clair dans tout ça. Sinon le macabre, sinon le malaise, mais dans le fond, nécessairement, cette position-là de témoin qui n'a aucun contrôle au bout du compte sur le récit et aucun savoir si le récit qu'on nous présente est véritablement le récit, parce qu'au bout du compte, on n'était pas là.
Mais c'est le lien que je trouve intéressant avec Brodeck aussi, parce que tu vois, là, on est vraiment sur le contraire. Là, tu sais, dans Brodeck, on a une personne qui doit cacher le crime de tout un village. Et là, ici, à Plainfield, pas besoin de vous dire que quand la chose va sortir, que les journalistes vont commencer à débarquer et tout, le petit village, assez rapidement, va vouloir passer à autre chose. Bien sûr, ils vont rester la ville où Ed Gein est né, malheureusement pour eux. Mais là, je veux dire, c'est tout un village qui essaie comme d'évacuer l'autre truc. On a encore cette... Et pourtant... Et c'est ce qui est souvent qui est récurrent dans le cas des tueurs en série. Et c'est ce qu'on, je pense aussi qu'on montre bien justement dans cette, d'où le terme autopsie qui est vraiment brillant. C'est-à-dire, notre tueur en série, il n'apparaît pas comme ça ex nihilo. Un tueur en série, c'est une construction. C'est une construction sociale, c'est une construction personnelle, c'est une accumulation de traumatismes. C'est tout ça que Gein représente. Mais je veux dire, quelqu'un comme ça qui est justement je reviens à l'idée du pacte social, qui est dans le pacte social, ben peut, je veux dire, on le voit aller, on peut l'aider, on peut intervenir, on peut, mais je veux dire, n'importe qui est laissé comme ça, tout seul, à ses obsessions, à toujours rebrasser les mêmes choses, ben, je veux dire, si ce que tu rebrasses tout le temps, c'est une recette de tarte aux pommes, probablement que tu vas finir avec la meilleure tarte aux pommes de l'histoire du monde. Mais tu sais, si ce que tu rebrasses tout le temps, c'est des obsessions, de creuser des tombes, puis de, ben, un moment donné, tu vas finir par passer à l'acte. C'est ça, Gein.
Alors, en fait, un récit documentaire assez riche qui nous dirige tranquillement vers ta dernière transition, Edouard.
Ben, en fait, tout à fait, oui, parce que bon, là, comme je disais, on a parlé des solitudes, hein, de tout un chacun. Bon, chacun des héros a sa solitude, mais bien sûr, on n'a qu'un seul héros. Et c'est là la force de quelque chose comme November, qui est une lecture que j'ai adoré, là, je me permets cette parenthèse, si vous êtes fan des récits comme 100 Bullet de Azzarello et Risso, là, des chassés croisés, tout serimbrique, magnifiquement mené qu'un scénario, c'est extraordinairement mené, ce truc-là. Et ce que j'ai trouvé, c'est ça, d'autant plus génial, c'est que, comme l'expliquait un peu Marco au début, on a trois protagonistes, trois femmes, qui ont chacune leur solitude, de par la vie, de par le fait qu'elles sont des femmes, de par le fait de ce qu'elles ont vécu, qui vont devoir collaborer quand même pour, bon, dépatouiller toute la situation. Mais moi, à la fin de tout ça, quand je regarde les trois personnages, je me dis, oui, il y a eu collaboration, mais ça reste trois solitudes. C'était trois solitudes qui sont restées. Trois solitudes tout le long, qui se sont croisées, mais qui n'ont comme pas pu s'amalgamer tellement elles étaient fortes.
Mais en fait, c'est des solitudes comparativement à les récits qu'on a pu voir dans celui-là, dans ce récit. Ici, les trois solitudes, chacune veulent en sortir de cette solitude-là, c'est-à-dire qu'elles ont un but. La junkie, la job qu'on lui offre, c'est une drôle de job, c'est de prendre un signal de radio tous les soirs à la même heure, ou d'envoyer un code, je pense. Donc, c'est d'envoyer un code.
Bon, c'est relayer un code, mais elle sait pas pourquoi. C'est pas
pourquoi, mais il y a de l'argent à la clé et... Pour elle, c'est important, et même si, à un moment donné, tout part en vrille, cette quête-là, elle veut la mener jusqu'au bout pour l'argent qui va la sortir de la drogue, qui va la sortir de la solitude. Donc, et là, la policière qui a été confinée aux appels 911, elle perçoit un peu les dangers qu'il y a dans la ville, mais personne n'agit parce qu'il y a des policiers corrompus, parce qu'il y a un paquet de trucs. D'autres ici, entre autres, interviennent dans l'histoire principale. Donc, cette policière-là, elle va intervenir, va quitter son poste du 911 pour aller intervenir sur le terrain parce qu'elle veut avoir la reconnaissance pour pouvoir retourner sur le terrain en tant que policière.
Et puis elle a tourné dos aux policiers corrompus aussi.
Tout à fait.
Dans le fond, elle se retrouve seule dans son équipe.
Non, c'est ça. Et tu sais, tous ces récits-là vont se croiser à un moment donné, et ces trois solitudes-là qui devraient s'entraider, ça ne fonctionnera pas parce que le but ultime n'est pas le même pour les trois. Et c'est ce qui fait en sorte que ça ne marche pas.
Et je mentionne au passage, d'ailleurs, chose importante, si vous lisez November, assurez-vous d'avoir un contexte de lecture où vous faites concentrer sur le récit, parce que il y a un jeu avec la structure qui est quand même fort, mais qui nécessite qu'on prenne le temps de la lire, qu'on prenne le temps de s'attarder. On peut pas la lire vite, et ça nous force, ce choix de narratif-là, à se laisser vraiment baigner dans l'ambiance d'Agnès Chartier sur le plan visuel, dans les choix de couleurs, dans les choix de traits, dans l'approche semi-réaliste qu'elle a, mais les choix qu'elle fait au niveau de la composition des séquences, des personnages et de reste. Donc ça nous amène, ça nous impose une lenteur dans le contexte d'un récit où pourtant, normalement, on aurait envie d'aller vite, on aurait envie que ça déboule, parce que on s'en poussait un peu par l'attente et l'expectative des événements qui s'en viennent. Mais si on tombe dans cette vitesse-là, eh bien, rapidement, le récit nous arnache, faut reculer un peu, faut comprendre, faut saisir. Il y a une belle complexité, et cette complexité-là devient un outil pour l'expérience de lecture.
Oui, puis c'est pas une bande dessinée qui va prendre son lecteur pour un idiot non plus. Il y a tout plein de petits... il y a tout plein d'indices à chercher, ou de détours de conversation qu'il faut un peu garder en tête, parce qu'il n'y aura pas Sigourney Weaver qui va sortir d'une boîte à la fin, qui va tout nous expliquer.
Non, là-dessus, je pense que vous avez tout à fait raison. C'est un récit qui nous prend pas par la main, clairement clair et net. Mais je pense que c'est d'autant plus apporté au crédit, justement, des scénaristes, parce que sans être pris par la main, et même si oui, en plus, au début, on est comme, bon, je m'en vais où avec ça, puis l'une, puis l'autre, puis je veux dire, si vous vous sentez dérouté au départ de cette lecture-là, je veux dire, faites confiance aux auteurs, ils savent exactement ce qu'ils s'en
vont. Matt Faction, en fait, c'est le plus européen des Américains. Non, mais c'est vrai, parce
mais
que
oui,
si on se rappelle, c'est, il est, quand il a travaillé chez Marvel, il a fait, il a repris des titres comme Iron Man, pis tout, et à un moment donné, il a repris le titre de Hawkeye, l'archer d'un Avenger, et il en a fait une longue run, un long récit où Hawkeye, ben, c'était juste quelqu'un qui habitait un immeuble et que là, les bombes du coin venaient, et jamais on voit Hawkeye en... avec son arc ou avec ses son costume, il fait juste être habitant du quartier, un citoyen de la ville, et là il vit des trucs de citoyen de la ville. Et ça, ça dure. Et là, on est chez Marvel là. Et Matt Fraction s'est associé à Jacques, à un auteur qui est presque la ligne claire, un peu, ça ressemble un peu à November. Et c'est pour ça. Et lui a toujours aimé ce genre de scénario là, de manipuler la narration et le récit. Et je pense, c'est pour ça que moi, je trouve que c'est le plus européen des
là-dessus, je pense que t'as 100% raison. Je pensais jamais avoir du fun à lire un récit de Hawkeye, en fait. Mais celui-là, un, est éblouissant. Et le je sais pas, c'est-tu le dernier chapitre? Celui avec le chien.
Avec le chien, pas il y a pas de texte.
Aucun
on
mot.
On suit que le chien.
Et tout est dans des impressions que le chien a, comme ça, en petite bulle, l'impression d'un humain, l'impression de « et ça ». Fonctionne, on comprend parfaitement où ce clébard-là s'en va, qu'est-ce qu'il pense, à quoi il aspire. Non, encore une fois, et c'est ça, c'est le même genre de processus très finement ciselé qu'on a dans November.
Parce que les trois femmes, dans le récit, la quête pour sortir de tout ça, ben, tout ce qu'ils vivent, ben, ils le vivent... la façon dont le regard qu'ils ont sur ce qu'ils vivent, ben ça, tout ça va s'entremêler, puis c'est les différents voilà.
J'ai l'impression que c'est quatre belles suggestions aussi. Si vous avez envie de vous confronter à quatre solitudes, et voire même sept, si on décuple un peu celles qui sont présentes dans November, dans le fond, quatre beaux livres, je vous les rappelle. Nagasaki d'Agnès Ostache au Lézard Noir, Le rapport de Brodeck de Manu Larsenet chez Dargaud, Ed Gein, Autopsie d'un tueur en série d'Harold Chester et Rick Powell chez Delcourt, et November de Matt Fraction et Elsa Chartier aux éditions Sarbacane. Alors, c'était notre sélection pour le club de lecture. Marco Duchesne, Édouard Tremblay, un grand merci à vous deux. Merci également à Émilie Roy-Brière qui sera derrière le thème du prochain club de lecture fin mars.
Oui, avec plaisir.
Alors, on se retrouve à ce moment-là en trio. On va parler d'ordre social, en fait, disons-le comme ça.
Oui.
Et plus d'informations, évidemment, sur les médias sociaux de La Vie en BD. C'était Raymond Poirier au micro. Passez une excellente semaine et on se revoit la semaine prochaine.